Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Qui écoute Radio Canut ce soir au 102.2 ou sur radiocanut.org partout dans le monde et dans l'univers. Et ce soir à la technique, il y a Jean-Yves.
Bonsoir, dans les studios, donc Fab.
Bonsoir, et oui, parce que pour la causerie, il n'y a pas ce soir Clara à qui on fait des gros bisous parce qu'elle est en vacances. Elle a bien le droit de profiter de congés. Voilà, ce qu'il faut parfois.
Mais tout à fait.
En profiter.
Mais évidemment.
Et surtout que ce soir, on peut dire que la gueule de bois, elle est un peu présente, mais comment dire, c'est pas une surprise pour nous à la causerie. On aurait aimé se planter. Ça fait quelques années qu'on alerte sur la montée progressive des idées de merde et la droitisation d'un pays. Voilà, on y est. Et nous, tout ce qu'on se dit, c'est va falloir redoubler encore et encore et encore de volonté et d'envie pour contrebalancer cette contre-révolution culturelle de l'extrême droite face à nous. Et ça va prendre du temps, on en a conscience, et ça va nous demander beaucoup beaucoup d'énergie et beaucoup 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 de sacrifices. Mais voilà.
Et redoubler aussi de vigilance.
Et bien sûr, évidemment, redoubler toutes
et de solidarité. En fait, on va peut-être essayer de tout redoubler.
Ouais, on redouble tout, on remet tout à plat et on vire Mélenchon. Alors, voilà. Pardon, c'était une envie que j'avais envie ce soir de dire. On va donc démarrer.
On va pas partir là-dessus.
Oui, que Mélenchon, on vire tout, on vire l'État, on vire tout ça et on apprend à vivre autrement et vive l'anarchie. Voilà.
Plus que jamais, exactement.
On va quand même faire une émission ce soir.
Ben
alors,
oui,
on
sûr.
Va pas vous parler des législatives plus que ce qu'on vient de faire. Et on va démarrer avec un petit topo sur l'éducation.
Mais oui, ce soir, on a envie de parler d'éducation. Vous emballez pas.
T'as tous les profs déprimés derrière. Oui. Attends.
Alors, parce que les réactionnaires et les autoritaires n'ont pas que volonté à prendre le pouvoir par les urnes. Voilà. Leur projet politique, social, sociétal se trouve aussi dans diverses initiatives et c'est de l'une d'elles dont je vais vous causer ce soir. C'est donc à Châtillon-sur-Chalaronne que je vous emmène, c'est dans l'Ain. En fait, c'est entre Villefranche-sur-Saône et Bourg-en-Bresse, on va dire, c'est le nord-est.
C'est ça.
Lyonnais.
Ouais, c'est ça.
Enfin, nord-est de Lyon.
Nord-est
pas
de
Lyonnais,
Lyon.
Quoi.
Enfin, ouais, c'est au nord-est de Lyon, voilà.
Voilà. Alors là-bas, devrait s'ouvrir une école un peu particulière, à savoir la maison d'éducation Pauline-Marie-Jacques-Rico, qui sera une école secondaire consacrée à l'éducation féminine.
Attends, est-ce que tu peux me redonner le nom?
Pauline-Marie-Jacques-Rico.
Ah oui, donc c'est un truc d'émancipation et tout. Avec un nom pareil.
Bah là, je pense que je peux tout ranger. Alors, je ne peux évidemment pas reculer devant le fait de vous citer le petit court texte qui précède le projet éducatif. Parce que dans des structures comme ça, c'est toujours intéressant le projet éducatif. Et donc, ce projet éducatif est donc précédé par, et ça met les choses au clair, je cite, « Ne rien envisager que par les yeux de la foi. Ne rien faire que dans la vue de Dieu, attribuer tout à Dieu. Votre foi doit être pour vous une lumière qui vous guide partout et une lumière ardente pour ceux qui vous instruisez pour les conduire dans la voie du ciel. Alors c'est pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu, hein, c'est de Saint Jean-Baptiste de la Salle, saint patron universel des éducateurs. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous apprend rien ici. Hein.
Ouais, moi je connaissais pas Saint Jean-Baptiste de la Salle. Enfin, c'est pas vrai parce que il y a un lycée La Salle, Saint Jean-Baptiste de la Salle à Lyon.
Voilà. Eh ben, c'est super.
Mais non. Mais voilà.
Écoute, moi j'ai décidé que maintenant tout était super. Voilà,
ce soir tout est bien.
Pardon. Alors, vous l'aurez donc compris, hein, c'est une école religieuse secondaire consacrée, je les cite encore, à l'éducation religieuse féminine. Alors, le projet éducatif, hein, il repose sur 6 piliers.
Ne marre pas, on va pas y arriver. Non.
Qui sont leur ligne de conduite, hein, et je ne pouvais là encore une fois pas reculer devant le fait de vous
citer les piliers.
Des piliers, en tout cas quelques extraits, parce que la reprise est un petit peu plus longue, mais quand même, je n'ai pas lésiné sur les moyens. Hein. Alors, ça commence par la formation chrétienne, parce que serait dans un projet éducatif, vraiment le premier truc hyper important, c'est la religion. Alors, je les cite, hein, suivant l'enseignement de l'Église, la maison d'éducation Pauline, Marie, Jaricot, souhaite transmettre aux jeunes filles l'amour de notre Seigneur par une formation à la vie des prières et d'oraison, l'enseignement de la foi à travers des évangiles, la proposition d'une vie sacramentale.
Ouais. Bon.
Et la participation aux célébrations religieuses selon les rites de Saint Pie V, c'est pas...
Ah oui, alors c'est avant Vatican II.
Ouais.
Donc en latin, ça veut dire ça en fait.
Et,
mais non, ils n'osent pas le dire comme ça.
Je vous parle pas de n'importe quel projet éducatif là. Hein. l'enseignement de la doctrine est assuré par l'aumônier. Et attention, écoutez bien. Hein. Il pénètre et transcende toutes les autres disciplines scolaires. Et je me disais, j'ai vraiment hâte d'avoir les cours de sciences. Parce que vraiment, si c'est dirigé par un aumônier, je pense que là, vraiment, on va être... Toi qui dénonce souvent le manque d'intérêt pour la science,
ça va
là,
bien.
Je pense qu'on a, le niveau.
Il faut qu'ils reviennent sur l'héliocentrisme. Tout ça, c'est pas, c'est, voilà, ça va être drôle. Quand même. Pas pour les... Non, je préfère en rire, mais c'est horrible. En fait, c'est horrible, vraiment. Quoi.
Oui. Alors après, donc, la formation chrétienne, le deuxième pilier, c'est l'apprentissage des savoirs, quand même. C'est important dans un projet éducatif.
Ça peut aider.
Alors, l'accession à la pensée critique et la formation du jugement sont des points d'attention permanents qui nécessitent que chaque élève concourt à ses apprentissages par un effort volontaire et un travail régulier. C'est ainsi que nous préparons ces futures femmes à transmettre à leur tour, à acquérir une liberté éclairée et responsable qui s'incarnera dans des décisions et des engagements.
Et comment tu peux écrire dans ton deuxième pilier de pensée critique, après avoir expliqué dans ton premier pilier que tout reposait sur un texte ?
Ben, c'est comme pour les sciences. On attend de voir, quoi. Vraiment.
Non, mais c'est énorme, quand même.
Ah oui, oui.
Si on voit la capacité qu'ils ont quand même à écrire des trucs qui ne tiennent pas la route si tu les relis entre eux, mais qui donnent l'impression de modernité à quelque chose qui est extrêmement réactionnaire.
Ouais. Et j'ai envie de te dire ce soir, c'est pas la raison qui gagne. Hein.
On est d'accord.
Enfin bref. Le troisième pilier, c'est la culture artistique. Et ça, tenez-vous bien. C'est du vol. Pour préparer les jeunes filles au plein épanouissement de leurs talents et à l'éducation de leur sensibilité féminine, je n'ai pas menti, je ne fausse rien. Là, tout ce que je vous dis, c'est tiré de leur site. Hein. Des cours de couture, de cuisine, d'art floral, d'art économique et de droit enrichissent leur parcours de formation et rehaussent l'exigence de leur vocation spécifique. Tout concourt à valoriser la féminité, sa mission de cœur et son désir d'accéder à la beauté.
Non, voilà. Attends, ce que je trouve énorme, non, mais déjà, alors ça fait froid dans le dos, hein.
Oui.
Mais ce que je trouve énorme, c'est l'ordre.
Oui.
C'est l'économie et le droit arrive après la couture, bah, c'est la bouffe.
Alors, c'est en relisant, je me dis, je pense que quand ils l'ont rédigé, ils se sont dit, non, attendez.
Faut rajouter deux trucs.
Faut mettre deux, trois trucs un petit peu, vous voyez, qui fassent qu'on passe pas complètement pour des réacs.
On est en 2024, et t'as un programme d'une école qui ressemble à l'école du 19e, quoi. Oui. L'école pour filles du 19e siècle. Mmh.
Ouais.
Ouais,
c'est, bah là encore, c'est dans l'air du temps, quoi. C'est horrible. Bref, le quatrième pilier, c'est donc le dépassement de soi. Ça fait très développement personnel, vous allez voir.
Là, le développement personnel est très religieux, je le rappelle.
Ben oui, justement.
On en avait parlé dans l'émission.
C'est tout à fait ça. Donc la maison d'éducation Pauline, Marie, Jaricot transmet aux jeunes filles le sens du dépassement de soi par l'effort de la volonté et la grâce de Dieu. Hein ? Pour que nos élèves se préparent à leur dignité pleine et entière de femmes, quelle que soit leur vocation particulière, nous préparons leur esprit et leur corps à se donner, à accueillir, à transmettre et à avoir le souci de toute fécondité sous le regard de Dieu. Susciter l'émulation vers le bien et vers le bien et vers un idéal chrétien, l'apprentissage de l'autonomie, l'encouragement des initiatives, le sens de responsabilité et le développement de la créativité sont des valeurs qui font partie du socle de notre projet éducatif.
C'est juste, alors bon, c'est extrêmement flippant, rétrograde. Oui. Je sais plus quel mot mettre là à ce moment-là. Surtout, je vous dis qu'il y a quand même des parents qui vont inscrire des enfants là-dedans. Hein, c'est quand même un peu.
Tout à fait.
Mais alors, en plus, moi, il y a quelque chose qui est quand même là aussi. Encore une fois, ça tient pas. C'est-à-dire qu'on te parle d'esprit critique, de machin, de développer, mais par contre, le pilier le plus, un des piliers, c'est de transformer les femmes en une usine à bébés, si c'était possible, pour faire plein des enfants. Et en plus, sous le regard de Dieu, parce que Dieu est un pervers, il te regarde baiser.
Oui. Et donc, il regarde aussi les gens se masturber. Alors c'est
ouais, il a un taf.
Surtout que moi, il est...
Du coup, voilà. Bon, non, mais c'est quand même dingue, parce qu'on voit bien la volonté au début de passer pour moderne. Finalement, on répond à des peurs modernes dues attention à l'école publique. On va parler de genre, tout ça. Bon, on sent bien que derrière il y a
ça.
Voilà. Et derrière, quand même, on vient quand même rappeler qu'on est une école extrêmement réactionnaire et extrêmement attachée à la vision chrétienne première de la femme, c'est-à-dire celle qui est écrite dans la Bible. Hein.
Ben oui.
Voilà.
Ben oui.
Donc, c'est-à-dire, tu procréeras et tu feras des milliers d'enfants pour Dieu. Voilà.
C'est ça. C'est super. Hein. Alors, le cinquième et avant-dernier pilier, c'est le bon esprit.
Ça, c'est important. Le fameux bon esprit.
Le bon esprit. Hein ? Dans notre établissement scolaire, nous nourrissons le cœur des jeunes filles afin qu'elles sachent aimer et exiger le bien, le vrai et le beau en cultivant et en pratiquant la vertu de la simplicité. En 1, simplicité envers Dieu. En 2, simplicité envers le prochain. En 3, simplicité envers soi-même. Ouais, tu kiffes, hein, je savais que tu kifferais, tu vois.
Non, mais ça me laisse presque sans voix.
Non, mais
Non, mais qu'on puisse écrire ça, ça me laisse. Voilà.
Ouais. Et enfin, dernier pilier.
Le pilier numéro 6.
Le devoir de mémoire.
Ah, bah oui.
Bah oui.
C'est par rapport à quoi ? J'ai peur là, franchement je flippe.
Non, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Calmez-vous monsieur, tout va bien se passer. Alors, à travers des travaux de mémoire, à travers des travaux de devoir de mémoire, la jeune fille se sent concernée et apprend à révérer ses ancêtres et nous lui rappelons tout ce qu'elle doit à ses aïeux, sans oublier le devoir de transmission qui lui incombera lorsqu'elle sera éducatrice.
Oh putain.
Alors, ça vous fait pas rêver, hein ?
Oh non, pardon, mais ça fait gerber, quoi.
Ouais, c'est ce que je me disais aussi.
C'est horrible, hein, vraiment.
Et vu que j'aime pas garder mes barbouillis tout seul...
Tu les partages.
Je les partage
entière.
Avec vous, amis auditeurs, voilà, auditrices.
Tu t'es dit que c'était une bonne soirée pour rajouter une couche. C'est maintenant.
Non, mais c'est un tout, j'ai envie de dire.
Oui, non, mais alors, par contre, c'est intéressant parce que c'est une vraie école qui va ouvrir.
Tout à fait.
On n'est pas là, on n'est pas dans un truc fictif.
Non, j'adorerais vous raconter de la science-fiction. Hein.
Oui, parce que moi, pourquoi je dis ça ? Parce que ça ressemble quasiment trait pour trait à ce qu'il y a dans La Servante écarlate, qui était quand même un livre de fiction au départ. Hein, Arthur n'espérait quand même pas qu'on s'en serve comme de livre d'intention. Et en fait, on est vraiment dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est le retour à la chrétienté la plus réactionnaire, même si j'estime que la chrétienté en général est réactionnaire, mais là, on est dans le volet le plus réactionnaire de la chrétienté, avec quand même cette espèce de retour de la femme comme outil de procréation et de transmission à bas coût, comme on dit, de peur qui permettent en fait de maintenir dans la croyance et etc. Quoi.
Voilà. Je voulais juste corriger, c'est pas à bas coût, hein, c'est à Châtillon sur Chalaronne. Pardon.
Je suis fatigué ce soir.
Je crois que j'ai un besoin de décompresser, vous voyez. Parce que ouais, moi aussi, mon sujet me fait pas plaisir. Hein, vraiment, auditeur-auditrice, ouais. On prend pas un pied fou à vous raconter des choses absolument détestables. Alors, si vous hésitez encore, hein, j'apporte quand même quelques précisions.
Si vous hésitez à inscrire vos enfants,
oui,
une précision en plus.
Comme la tenue obligatoire, hein, par exemple, qui accompagne ce projet éducatif ? Tenue obligatoire, ou ça vous rappellera un truc aussi dans l'air du temps ?
Une aube ?
Bon, non. Ah. Non.
Pour là, il manquait plus que ça, quand même. Ouais. Écoute, une robe de bure
ça, tu vas le voir au fur et à mesure se dessiner, tu vas dire, ah oui, ok, ouais. Alors, chemisier blanc, jupe longue, hein, on prévient, parce qu'il ne faudrait pas non plus exciter les aumôniers. Béret.
Qui aime pénétrer partout, ils l'ont dit.
C'est horrible, non mais vraiment. Béret, lavalière pour les collégiennes et foulard de soie pour les lycéennes. C'est pas joli ça?
Oh, mais dis donc, mais c'est un troupeau de Versaillais.
Oui, mais à Châtillon-sur-Charonne. Ça, c'est la décentralisation.
Oh, bah, dis donc.
Alors, seront aussi interdits hein, ce qui est dénommé comme bijoux fantaisie. Hein, alors, type boucle d'oreille, bracelet, collier. Hein, et bon, c'est pas un bijou, mais le téléphone portable aussi est interdit, hein, complètement interdit. Hein.
Alors, est-ce que tu pourrais aller vérifier ce qu'il te raconte? Il ne faut pas déconner.
On n'y est pas. Attends, je n'ai pas fini. On se dirait, tiens, ça pourrait s'arrêter là.
Ah bah, non,
surtout pas. Alors, aucun objet ne pourra être échangé ou vendu au sein de l'établissement sans autorisation. Les lectures personnelles apportées dans l'établissement doivent être présentées à la surintendante pour approbation. Et il est aussi interdit de faire circuler des DVD, CD et clés USB sans être passé par le bureau du directeur. Toujours vous hésitez?
Ça fait un peu dictature quand même. Hein. Bon, moi, je dis rien. Mais...
Toujours à contrer l'autorité.
Pardon, ça fait un contrôle de l'ordre. Alors, je m'adapte un peu à l'heure du temps.
Oui. L'établissement hein, demande également aux jeunes filles à s'engager à ne pas avoir de compte sur les réseaux sociaux et aux parents à s'engager à faire respecter cet interdit.
Et sinon, elles sont quoi? Brûlées en place publique sur un bûcher? C'est pour savoir.
Non, elles seront exclues. Il y a des rappels. Il y a 3 niveaux de rappel. Oh. La troisième, c'est l'exclusion. Hein. Et là, Fissa, tu dégages. Hein. Pas non plus salir la chrétienté. Oh, attention.
Mais c'est horrible.
Parce qu'à part ça, il n'y a rien d'autre hein, dans la chrétienté qui pourrait vraiment salir la chrétienté.
Non. Mais pas, tu vois, 90% de la Bible. Pourquoi tu dis des
ça
trucs comme
ça? Ça serait quand même. Alors, bref. Dernier détail, et qui là aussi devrait vous ravir. Il y aura tous les jours, dès 8h10, une prière commune à la chapelle où elles devront avoir la tête couverte.
Ah bah oui, alors
voilà,
ça,
c'était
oui,
pour ça.
Parce qu'on va quand même rappeler, parce que pour les excités de ce soir là qui sont allés voter majoritairement pour des partis qui leur font peur avec les musulmans qui mettent des voiles, vous voyez, bah on va vous rappeler quand même, à vous qui vous croyez chrétien, vous savez, la racine chrétienne de l'Europe, qu'en fait, en théorie, dans vos textes écrits, vous êtes voilés, et mesdames, oui, quand vous allez parler à Dieu, parce que Dieu, il n'aime pas voir vos cheveux. Parce que Dieu, en fait, c'est une fashion victime, et quand il voit des cheveux mal coiffés, il déteste ça.
Voilà, non, mais, il est obligé de peigner, ça fait trop de monde, ouais. Et la pas un peigne assez grand.
On en rigole, mais sauf qu'en fait, dans les faits, c'est surtout qu'il faut rappeler que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient dans le monde, les femmes sont systématiquement infériorisées aux hommes, et souvent par des signes distinctifs. Et là, en fait, et bah, cette école qui se réfère à Pie V, c'est-à-dire avant Vatican II, c'est-à-dire avant la Réforme, bah, nous rappelle gentiment que dans la chrétienté réelle, c'est-à-dire dans le catholicisme réel, et bah, en fait, il faut se voiler quand on va parler à Dieu.
Ben oui, parce que les femmes sont impures.
Bah, évidemment, c'est bien
connu. Bah oui, c'est tellement...
Enfin, c'est dans leur tête à eux, pas dans la nôtre. Hein.
Bah non, pas du tout, non. Je continue. Hein. Alors, Thérèse Maddy, qui est la fondatrice, alors elle avec son mari, hein, parce que souvent c'est des histoires de famille quand même, tout ça. La fondatrice est donc aussi gestionnaire hein, de l'association qui chapeaute l'école, dit avoir déposé une plainte à la gendarmerie contre une association qui s'est exprimée publiquement sur les influences qu'on prête à cette école. C'est vrai quoi? Alors, une école réservée aux filles, avec enseignement religieux, avec le voile dans les lieux religieux, une prière quotidienne, des cours pour éduquer les femmes pour qu'elles soient elles-mêmes armées lorsqu'elles sont éducatrices, entendez, lorsqu'elles seront mères, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre destinée pour les femmes, on ne peut que leur prêter des influences, des fondations révolutionnaires, anarchistes. Ah non, en fait. Non, en fait, c'est vraiment qu'un ramassis de réactionnaires, de traditionnalistes et d'autoritaires qui ne s'assument pas.
Tout à fait.
Comme souvent, en fait. Hein. Alors, moi, je les invite. Hein, encore un petit effort pour que vous assumiez ce que vous êtes. Parce que, pour aussi ce que vous pensez et portez comme idéaux et comme idées, en fait. Hein, faut mettre tout ça en adéquation. C'est pas grave. Assumez-vous. Vraiment, moi, je suis pour... Allez, sortez tout, assumez qui vous êtes. Vraiment, ça mettra les choses au clair.
Et bien sûr, la plainte, c'est au 24 rue Sergent Blandan, 69-00 à Lyon, et c'est pour la causerie.
Je me suis dit qu'on n'était pas à la hein.
Alors, non, bon. Mais bon, au moins on leur facilite la vie, ça éviterait qu'ils cherchent l'adresse, je veux dire, au moment donné.
Nous, on est là pour simplifier la vie.
Ah oui, il faut simplifier vraiment, la quoi. Vie. C'est le truc, voilà.
Alors bref, hein, l'heure est à la réaction et à l'autoritarisme, hein, si on en doutait encore, va falloir être sûr. Et il va vraiment falloir aussi un commencer pour certains ou certaines et ou continuer à dénoncer toutes ces merdes pour ce qu'elles sont. Parce qu'encore une fois, là aussi, on donne au milieu, tant que ça concerne l'État, le capital, il y a du monde. Alors dès qu'il faut dénoncer l'ambition religieuse de contrôler la vie des enfants, la vie des femmes, ben, il y a bizarrement plus grand monde en fait. Parce qu'un dogme de 2000 ans, on n'ose pas s'y attaquer quoi. Eh ben allez-y en fait, hein, c'est juste un livre en fait. Et les gens, bah, s'ils comprennent pas que la critique ça nécessite pas la mort, bah, j'ai envie de vous dire, c'est eux le problème en fait, c'est pas ceux qui critiquent le problème. Hein. Bref, ni Dieu ni maître, tant qu'il le faudra, et j'ai l'impression
qu'il
va le falloir très longtemps. Hein.
Ouais, mais on sait ça, on a l'habitude.
Oui,
oui, parce qu'alors, oui, nous autres qui sommes des païens aux yeux des religieux,
des
mécréants, tout ça, bon, en fait, on est athées, hein, tout simplement. En fait, et puis qui prônons quand même la fin de l'État, tout ça, on a toujours été minoritaires.
Oui.
Alors, autant vous dire que ce soir-là, on n'est pas, on trouve pas ça cool. Hein, autant vous dire que cette école, ça nous énerve beaucoup, mais autant vous dire que malheureusement, on n'est pas surpris, parce que ça fait quand même quelques années qu'on voit. Donc, juste, et je te rejoins, et on va le redire calmement et doucement, il n'existe pas d'émancipation dans le monde sans une critique réelle et sérieuse des religions.
Oui.
Voilà.
Oui. La critique de la religion, ce n'est pas vouloir la haine ni la mort des croyants et des croyantes. Hein, je le redis parce que en fait, on aime bien prêter des pensées aux gens. Sinon, ça voudrait dire que je devrais éliminer une partie de ma famille. Bon, non, en fait, j'ai pas d'intention génocidaire. Vous voyez, bande d'abrutis derrière le poste.
Un mois
non, pas tous, hein, mais certains ou certaines qui pourraient nous prêter des idées. En fait, non, c'est juste que bah oui, la critique des religions qui ont quand même pour ambition de régir la vie de toutes celles et ceux qui y croient. Et ils ont quand même une ambition plus grande, hein, c'est de régir tout le monde, la vie de tout le monde. Ben en fait, c'est la base. Enfin, on a le droit, quoi. Enfin, si on n'a plus le droit de
et
ça.
Et surtout, ça démontre bien que leur volonté étant de revenir par les écoles. Hein. On va rappeler quand même qu'aujourd'hui, 96% de l'enseignement privé en
et
France
eux, ils sont hors contrat.
Et catholique, que dans les écoles hors contrat, et là aussi, 96% sont catholiques et pas musulmanes, comme on l'a pu l'entendre dans la campagne des législatives. Donc voilà, donc en fait, on voit quand même qu'il y a une volonté de revenir par l'éducation, qu'ils ont compris que c'était par là qu'ils pourraient rentrer, et notamment faire rentrer dans la tête des enfants le pire, parce qu'ils ont compris eux aussi, ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est qu'une bataille des idées, ça se gagne par les idées avant tout, et surtout que c'est long après de démanteler une idée qui est rentrée dans la tête de quelqu'un.
Clairement.
Et ça, ils le savent. Donc c'est pour ça que, bah, allons-y gaiement, hein, ils sont en plein dans l'air du temps, comme tu disais.
C'est voilà. Exactement ça. Donc c'était pas
et comptez sur nous pour continuer à en parler.
Tant qu'on pourra.
Bah oui, tout à fait.
Tant qu'on ne coupe pas les micros.
Et même si on doit faire ça dans un podcast, on continuera.
Ça, voilà. C'est une certitude.
C'est clair.
On se quitte, enfin on se quitte, mais en tout cas...
Non, bah non, parce que j'ai un sujet.
Mais oui, c'est juste une petite pause musicale de 4 minutes et quelques, et on se retrouve juste après.
tu penses.
Toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie comme presque tous les dimanches de 22h à 23h. Et là, on vient de s'écouter le tout dernier titre sorti par Koï. Je vous avais parlé, je crois que je vous avais passé les quatre titres de leur précédente EP. Et donc le titre, c'est Choukran.
Ouais, et j'adore Koï.
Oui, c'est beau, j'aime beaucoup, c'est très aérien. J'aime beaucoup.
Ouais, vraiment.
Et ben Fab, alors, t'as entendu parler du climat ?
Ouais, parce que j'entends parler du climat, et ben non, en fait.
Non,
pas du tout, hein. Ça fait donc 12 mois d'affilée que le globe dépasse la température moyenne la plus chaude relevée depuis l'ère avant l'industrie. Voilà. Alors 12 mois hein, que les climatologues ils froncent un peu les sourcils parce que c'est pas tout à fait logique, sauf si c'est le scénario le plus rapide qui se produit. Vous savez, vous avez parlé des scénarios oui. Du GIEC, tout ça et tout. Et oui, parce qu'à la causerie, il faut suivre un peu. Hein. On suit des idées.
Ah bah nous, c'est pas des épisodes la causerie.
Voilà,
hein,
on reprend pas tout du début à chaque fois.
Quoi.
Donc au bout de 12 mois, le couperet il est tombé parce que ils sont un peu penchés sur tout ça. Hein. C'est bien ça en fait, hein, tout simplement. C'est le scénario l'un des deux scénarios. Les pires qui est en train de se produire. Donc toutes les mesures, les études, les prospectives, ou presque, parce que je vous rappelle que c'est jamais à 100%, ça s'appelle de la science, hein, sinon voilà. Donc en gros, pour vous donner le chiffre exact, 93% des études vont dans ce sens-là. C'est un emballement du phénomène de dérèglement climatique. Voilà. Oui, ce soir, on n'était pas là pour vous remonter le moral totalement, hein, pardon. Alors, je vous vois venir. Oui, parce que je commence à vous connaître. Vous dites, c'est pas possible, vu les mois de mai et de juin qu'on a eu avec toute cette pluie, hein, que j'ai même pas pu sortir la caravane. Pourtant, il suffit d'être objectif pour voir que même là, on sent qu'il y a quand même un léger problème. Parce qu'il pleut, certes, mais il fait bon. Ben ouais, il fait pas froid. Donc
oui,
voilà.
Je crois pas que t'en parles après, mais enfin, et puis c'est aussi, il faut voir les choses plus globalement.
Oui, tout à fait, il faut voir les choses globalement. Ça, c'est la météo, ne fait pas le climat, vous éteignez le truc. Mais surtout, même là, en étant objectif, c'est-à-dire en regardant objectivement la météo, on peut se rendre compte quand même que, par exemple, il fait parfois chaud, même quand il pleut. On a eu des journées de pluie à 24 degrés à Lyon en plein mois de mai. 24 degrés en plein mois de mai, c'est pas fréquent. Avec la pluie, ça n'existe pas en théorie. Donc voilà, on voit bien qu'il y a comme un tout petit problème. Voilà, c'est juste qu'en fait, hein, c'est réellement là aussi une conséquence du dérèglement généralisé. Dérèglement qui a amplifié le phénomène El Niño, Ah oui, alors le phénomène El Niño, hein, vous savez, c'est ce réchauffement cyclique des eaux du Pacifique qui a un impact sur tout le climat mondial. Oui, parce qu'alors, il va falloir expliquer ça aux gens, mais en fait, les frontières, ça n'arrête pas le climat, parce qu'en fait, ça n'existe pas, les frontières. C'est un truc qu'on a dessiné sur une carte.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà. Donc, sur l'Europe, hein, à chaque fois qu'il y a El Niño, ça donne normalement un hiver un peu plus doux et un peu plus pluvieux. Mais j'ai bien dit un peu, pas beaucoup. Voilà. Sauf que le dérèglement climatique fait que non seulement c'est plus chaud et pas doux, parce que les météorologues ils disent qu'on n'a pas eu un hiver doux, on a eu un hiver chaud, ce qui n'est pas la même chose, et très pluvieux. Parce que là, c'est très, 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 très pluvieux. Il a plu en moyenne 60% de plus que d'habitude. C'est assez gros hein, comme augmentation. C'est aussi, alors je parle de l'Europe, hein, parce que par contre, il y a des coins du monde où El Niño, ça fait normalement un peu plus d'assèchement, un tout petit peu plus d'assèchement, et un tout petit peu plus chaud. Et là, ils ont eu très 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 chaud et plus d'eau du tout. Donc là, ça fait pareil. C'est-à-dire qu'on voit une augmentation de ce qu'on appelle les fonctions extrêmes de la météo et du climat. Donc c'est aussi le cas des variations rapides. Voilà, ça c'est un truc intéressant à observer. Alors généralement, il fallait 3 à 4 semaines pour qu'une goutte froide ou une goutte chaude, vous savez, on en entend beaucoup parler des gouttes froides, gouttes chaudes, s'implante sur une région. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait 3 semaines en gros pour que vraiment on sente une inflexion froide ou une inflexion chaude. Voilà. Sauf que maintenant, il faut un peu moins de 2 semaines. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où on détecte la goutte et le moment où elle arrive, il se passe 2 semaines. Avant, il se passait 3 à 4 semaines. C'est quand même, voilà. Autrement dit, hein, ces phénomènes qui étaient progressifs deviennent soudains. Voilà. Les écarts de température d'une journée sur l'autre étant de plus en plus marqués. Je vais prendre un exemple. On est lyonnais à hein, Radio Canu, donc j'ai pris Lyon. Un exemple sur Lyon, on passe parfois de 21 degrés à 32 le lendemain. Ça fait 11 degrés d'écart, c'est assez énorme. Et en fait, d'habitude, il fallait 5 jours pour passer de 21 à 32. Et là, on le fait en 24 heures. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui ne va pas, c'est que ça s'est déréglé. En gros, la planète s'en fout. Hein. Pour elle, ça va. C'est pour nous que ça ne va pas. Donc, il y a un léger emballement, comme vous l'aurez compris. Revenons à ce que disent les scientifiques. Oui, alors je sais, les gens n'aiment pas les scientifiques. C'est un peu quand même ceux qui étudient le truc, donc voilà. Alors, comme on l'a déjà expliqué plus d'une fois dans l'émission, les scientifiques fonctionnent par scénarii. Scénarii étant le pluriel de scénario, je le rappelle. Ils élaborent plusieurs possibles, ensuite, ils explorent chaque scénario pour voir lequel est le plus pertinent. Aujourd'hui, nous pouvons donc dire que nous sommes dans les pires scénarii prévus. Voilà ce que je vous disais au début. C'est-à-dire que non seulement le dérèglement climatique est bien une réalité, bon, ça, si tu en doutes encore de l'autre côté du poste, on reprend toutes les émissions où on a parlé, hein, voilà. En prime, il va plus vite que prévu. Parce que c'est ça, en fait, le truc qu'ils ont remarqué. C'est-à-dire que la barre des plus 2,5 degrés en moyenne que le globe devrait peut-être atteindre en 2100, devrait être atteinte en 2070, au rythme où on va. Et 30 ans, c'est vite, beaucoup d'années en moins quand même, hein. Ça va beaucoup plus vite, vous voyez ce que je veux dire. Et je rappelle que c'est une température moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des régions, notamment l'Europe, où ça va plus vite, où on se réchauffe plus, et des régions où on se réchauffe un peu moins, ce qui fait qu'en moyenne ça fait 2,5. Mais par exemple, l'Europe, on sait qu'un réchauffement global de 2,5 degrés, c'est un réchauffement à peu près de 4 degrés sur la zone Europe. Voilà,
c'est... Oui, et puis tu as les zones arctiques qui réchauffent beaucoup plus vite.
Les zones arctiques se réchauffent plus vite. Ouais. Par contre, on voit par exemple que les zones désertiques se réchauffent moins vite. Mmh. Mais ce qui est normal, elles sont déjà chaudes. Mmh. C'est juste de l'entropie, hein. Il n'y a pas de mystère. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui croyaient que c'est parce qu'on priait là-bas que ça se réchauffait moins vite. Non, je vous rassure, ça n'a aucun rapport. c'est juste de la physique de base. Un jour, on vous fera une cour d'entropie. On va rappeler qu'on sait prédire la météo hein, jusqu'à plus 2 degrés, hein, c'est-à-dire qu'en gros, tous les schémas météorologiques, et je parle bien de la météo, là, c'est-à-dire le temps qu'il fait sur les 5 jours qui viennent, ont été validés jusqu'à plus 2 degrés de réchauffement global. Après, on ne sait pas trop faire. Voilà. Et on ne sait même plus faire de prévisionnel sur le climat au-delà de 1 plus 1,9 degrés. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'inconnu.
Oui, c'est l'inconnu.
Pour être clair. Au-delà, en gros, comme diraient des scientifiques, va falloir tout réinventer. Donc ça va prendre un peu de temps. Et surtout, on ne va peut-être pas arriver à comprendre tout de suite. Voilà. Ça fait flipper, hein. Sauf qu'on en est là. Voilà. C'est d'ailleurs dommage hein, que dans cette campagne éclair, personne n'ait parlé de climat. Voilà. Dans un article pour le National Geographic, Michael Mann, qui n'est pas réalisateur de films dans ce cas-là, mais qui est en fait le directeur du PCSSM. Alors c'est un centre d'échange entre scientifiques et médias. C'est-à-dire c'est des gens qui font de la vulgarisation scientifique pour les médias, pour en fait expliquer,
les rendre accessibles.
Il est donc lui membre de l'université de Pennsylvanie. Il dit que le seuil de 2 degrés, même s'il n'est pas scientifiquement démontré, parce que je vous rappelle qu'au départ on a fixé 2 degrés. un peu comme ça, en se disant plus au-delà de deux, on sait pas trop faire, donc voilà. Bah en fait, c'est une définition plutôt objective du passage d'une situation dite mauvaise à une situation dite très mauvaise. Voilà. Oui, c'est les scientifiques. Ils classent les choses, ça peut vous paraître bizarre, mais en gros, ce qu'ils essayent de vous dire, Michael Mann, c'est qu'en fait, on est déjà dans mauvaise, c'est-à-dire que c'est déjà pas cool aujourd'hui, et de mauvaise, on passe à très mauvaise, c'est encore moins cool. En fait, il est pas en train de vous dire, avant c'était bien, tout va bien, et demain c'est pire. Non, là, il vous dit, on est déjà dans la merde, mais demain c'est encore pire, vous voyez ? Un peu comme avec Bardella. 2 degrés Celsius, c'est une ligne de démarcation en fait raisonnable au passage dans le rouge, dans tous les aspects préoccupants. Voilà, en gros, ce qu'il explique Michael Mann avec ces phrases-là, c'est simplement, il faut le comprendre, c'est qu'en fait, les scientifiques, ils fixent des seuils, mais c'est des seuils un peu pas forcément objectifs.
Ouais, c'est arbitraire.
C'est des seuils arbitraires, mais qu'après, on partage tous. Mmh. C'est-à-dire comme ça, tout le monde se dit, bon... C'est le seuil auquel on se dit avant c'est mauvais, après c'est très mauvais. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'effectivement ils se sont rendus compte que avant 2 degrés on avait encore quelques trucs qui restaient dans le vert, genre l'océan montait pas trop haut ou des choses comme ça. Après 2 degrés c'est foutu. Tout passe dans le rouge.
Oui, donc c'est arbitraire, mais il y a quand même
ça repose quand même sur une observation. Oui. Mais par contre, ça pourrait être 2,1.
Oui, voilà. Oui.
Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, notamment les réactionnaires, nous font tout un discours anti-scientifique en disant ouais, mais ils disent 2 degrés, mais en fait, il y a rien qui prouve que c'est 2. Ça se trouve, c'est 2,1 et c'est pas 2. Ouais, alors juste, en fait, c'est un seuil. Hein. Donc comme principe, ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, ça bouge déjà. Donc il faut faire quelque chose aujourd'hui. Pas attendre qu'on soit au seuil, vous voyez. C'est... En gros, les réactionnaires, ils sont en train de vous dire, ouais, je le vois le mur, mais accélère et on ira plus vite. Et quand on y sera, on verra ce qu'on fait. Non, c'est complètement idiot. Alors voilà. Donc, si tu transcris ça à une bagnole, tout de suite t'as compris. Sauf que nous sommes déjà en fait aujourd'hui à 1,2 degrés en moyenne sur le globe, ce qui est assez énorme, et plus 3 sur l'Europe, pour info, plus 2,7 plus précisément. Donc avec des zones qui se réchauffent plus vite que d'autres. Donc je vous l'ai dit, l'Europe, le pôle Nord vont plus vite. Alors c'est emmerdant pour le pôle Nord parce que lui ils font, et quand ils font, ils mettent de l'eau. Ils rajoutent de l'eau dans l'océan. Et contrairement à une idée complètement couillonne que j'ai lue, non, ce ne sont pas des glaçons qui flottent le pôle Nord, hein, c'est sur de la terre. Mmh. Donc en fait, quand le glaçon ils font, il va vraiment rajouter de l'eau dans l'océan. C'est pas comme votre glaçon dans le verre où vous après vous dites, ah mais oui mais non ça monte pas. Voilà, bref. Alors selon une partie des politiques. Que j'ai déjà cité, il ne faudrait pas s'inquiéter parce que nous ne sommes pas encore à 2 degrés, mais c'est nier le réel. Voilà. Alors, excusez-moi, je réponds à ça. Je vais laisser Michael Mann répondre. Parce que Michael Mann, c'est son job. Alors, il dit, le réchauffement de 1,2 degré que nous avons déjà atteint est déjà trop important. Voilà, tout simplement. Nous constatons déjà des conséquences dévastatrices. Oui, alors pour ceux qui allumeraient jamais les médias, il y a beaucoup de ce moment de catastrophe naturelle. Hein. C'est lié à ça. Voilà. La question est donc de savoir jusqu'à quel point nous sommes prêts à laisser les choses se dégrader. Plus 1,5 serait déjà grave. Voilà. 2, vraiment grave. Et une hausse de 3 degrés amènerait peut-être à la fin de la civilisation. Voilà. Il explique ça dans son livre d'ailleurs, Au Fragile Moment, qui va être traduit en français comme un instant fragile. Voilà. Parce qu'en fait, Michael Mann, en fait, avec tous ses collègues, c'est un livre collectif, en fait, il commence à paniquer un peu en se disant, en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'on raconte depuis bientôt 50 ans. Voilà. Et en fait, oui. Mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais
oui,
vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est que le repli réactionnaire et raciste qui semble traverser le monde est en totale contradiction avec le besoin de coopération mondiale en face du dérèglement climatique et de ses conséquences. Et aussi le fait d'abattre le capitalisme, accessoirement. Parce que oui, ce n'est pas chacun dans son coin avec ses petites ou grosses solutions qu'on pourra sauver l'humanité. Non, non, ça marchera pas. Pire, le refus de coopérer peut entraîner des effets collatéraux. Prenons l'idée d'éclaircir les nuages au large des côtes des USA par propulsion de microparticules de plastique et d'autres produits chimiques qui auraient... c'est Donald Trump qui a lancé ce programme. Un réactionnaire. Donc voilà. Parce que effectivement, sur le papier, si vous faites ça, théoriquement, vous faites descendre de 3-4 degrés la température moyenne sur les zones les plus chaudes des USA. Sauf que bah, ces 3-4 degrés, ils vont se déplacer sur l'Europe et le Japon. Parce que c'est con, hein, mais quand c'est chaud, c'est chaud. C'est-à-dire qu'après, ça bouge, vous voyez, c'est un peu le truc. Et donc, il y a bien un moment où ça va quelque part. Et puis, bah, ça peut avoir un effet de montée de température très intense sur les USA dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça va baisser pendant un mois ou deux, et puis d'un coup, pouf, repartir, mais avec un effet de seuil énorme. Donc, en fait, ça marche pas. Et donc, Michael Mann, il dit, bah, c'est un peu reculé pour mieux se faire sauter le caisson, en quelque sorte. Alors, j'ai pris son expression.
Je pense que c'est plutôt bien résumé,
ouais,
en fait.
Il dit, c'est totalement, voilà, sauter le caisson, c'est pas mal.
Oui, mais c'est totalement dans une logique individualiste, ouais. C'est-à-dire,
et ça marche pas.
Les États chacun pour sa gueule, et puis, Dieu pour tous. Ah ouais, ça doit être ça.
Bah, ça est aussi lié à ce que tu disais.
Bah, oui.
Donc, dans un rapport de 2018, les scientifiques du GIEC avaient. Alors, je rappelle quand même que le GIEC, c'est pas les scientifiques les plus hardcore. Hein.
Non.
C'est un truc où on fait du consensus. Donc, voilà. Ils avaient étudié la différence entre un réchauffement moyen de 1,5 et un réchauffement moyen de 2 degrés. Puis, je t'ai dit, tiens, si on lançait des calculs. Eh bien, c'est sans appel, là aussi. Hein. Alors, je recite Michael Mann. Ce rapport montre, grosso modo, que 0,5 degrés de réchauffement supplémentaire entraînerait probablement la fonte de la banquise arctique, 3 fois plus d'épisodes de chaleur extrême, les niveaux d'extinction bien plus importants pour les espèces et la potentielle perte des récifs coralliens sur toute la planète. Voilà.
Bagatelle.
Et nous nous rapprocherions même des points de basculement pour la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidental et des mètres d'élévation potentielle du niveau de la mer qui l'accompagne. C'est une situation assez brutale. J'aime beaucoup l'euphémisme final de sa phrase. C'est une situation assez brutale. Oui, en gros, c'est la grosse merde, hein, on va le dire avec nos mots. Donc, c'est quand même inquiétant de se dire... Voilà. Je tiens juste à préciser que Michael Mann, dont je vous parle, vous pouvez trouver son CV sur Internet. Vous verrez que c'est pas un extrémiste du... Parce que tout de suite, on va dire « Oui, mais c'est un mec d'Extinction Rebellion qui lance de la bouffe sur les tableaux. » Pas du tout. C'est un scientifique reconnu et vraiment... qui d'ailleurs lui-même l'admet dans un article que j'ai trouvé excellent, que je vous invite à lire, où il raconte justement que lui-même a été à une époque climato-sceptique parce qu'il n'osait pas croire à ce qui arrivait, parce que c'est aussi l'effet de « c'est pas possible », vous voyez, ce truc. Et puis qu'après avoir étudié ça, il s'est dit « là, ça craint quand même », vous voyez, donc c'est pas un idéologue du climat, c'est un scientifique qui essaye d'alerter depuis des années, voilà, c'est juste... préciser son CV.
Et puis rappelons encore une fois, la planète va pas s'arrêter de tourner.
Ah non, elle va bien. Vraiment, c'est nous, hein, l'humanité. Hein,
la planète, elle s'en fout en fait. Enfin, elle va s'adapter. Il y aura des rééquilibrages.
Alors, il y a déjà eu d'ailleurs, a priori, d'après des nouvelles études qui sont encore à confirmer, une des 6-5 extinctions qu'il y a déjà eu sur la planète aurait un lien direct avec le taux de CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Donc
c'est-à-dire que
elle s'en est relevée, la planète.
La planète s'est relevée. Hein, donc gardez bien ça en tête. En fait, c'est ça le truc, quoi. C'est qu'à un moment donné, mais même des fois dans certains discours politiques, quoi, genre la planète va pas bien. Non, en fait,
c'est l'humanité qui va pas bien.
C'est l'humanité qui va mal aller et qui va pas déjà très bien, en fait. C'est pas le caillou qui tourne, en fait. Hein,
c'est ça.
C'est nous.
Donc en gros, moi j'ai continué ma chronique en disant que soit on va coopérer, soit on va crever. Oui, parce qu'à un moment donné, j'en avais un peu marre de faire dans l'euphémisation. Donc ouais. Comme souvent, on est là face à un vrai moment de bascule. Du climat, mais surtout en fait, un moment de bascule politique en réalité. Parce que là aussi, c'est très politique. Hein. Cette accélération est en grande partie due à un recul sur le climat des grandes puissances. Et on voit bien que les grandes puissances, elles ont majoritairement basculé dans la réaction.
Clairement. Oui.
Celles qui, depuis des années, font monter en leur sein des partis politiques les plus conservateurs et climato-sceptiques. Faut pas croire, il n'y a pas de mystère ou de punition. Ce sont bien nos choix qui nous ont amenés là, et le capitalisme, bien entendu. C'est pas un truc, c'est pas Dieu qui nous punit ou un truc comme ça. Tout est explicable, hein, donc voilà. Simplement, il nous reste très peu de temps pour avancer et ne pas mettre en danger la survie de l'être humain. Alors, je vais être clair dans ce que je dis. Je suis pas en train de dire qu'on peut revenir en arrière, parce que c'est pas vrai. Je suis juste en train de dire qu'en fait, il nous reste très peu de temps pour éviter de passer un seuil dans lequel on sait plus quoi faire après. Voilà, c'est tout. Coopérer sur le sujet est la seule solution, et coopérer réellement et vraiment. Pas à coup de chartes et autres textes signés qui ne engagent pas à grand chose, mais dans l'échange réel, c'est-à-dire l'exact inverse de ce que prône le néolibéralisme. est le repli sur soi actuel.
Voilà. Ce que j'allais dire, en fait, vu des résultats ce soir, j'ai quand même l'impression follement que c'est mal barré, qu'on est vraiment de plus en plus dans le chacun sa gueule, en fait.
Ouais.
Et que le danger, c'est l'autre, quoi.
Ouais.
C'est à l'opposé de la coopération, c'est horrible.
Mais du coup, ça va être à nous de porter l'idée inverse, oui, et de la porter très forte. Il n'y a pas vraiment d'autre solution, hein, pour être clair. Il n'y a pas d'autre alternative, hein, comme dirait Thatcher, mais elle, c'était sur des mesures libérales, de casse sociale et de haine. Alors là, c'est vraiment vrai, il n'y a vraiment pas d'autre alternative. Je vous le dis, c'est pas pour foutre la trouille, hein, c'est juste que faut arrêter de se mettre la main devant les yeux. Hein. Habituons-nous aux hivers bizarres, aux étés ultra chauds, aux coups de chaleur et de froid, parce que c'est notre avenir à court terme. On n'a pas trop le choix, de toute façon, il va falloir faire avec. Reste maintenant à nous assurer un avenir long et un avenir à long terme. Parce que c'est ça la vraie question aujourd'hui. C'est plus de changer, savoir si on va avoir de nouveau de la neige en hiver, parce que ça c'est réglé, il n'y en aura bientôt plus. Par contre, ce qu'il va falloir se poser des questions, c'est comment on fait dans 50 ans. Voilà. Alors, je vais dire un truc très personnel. J'ai pas d'enfant, personnellement. Donc j'ai pas cette espèce de truc de projection que peuvent avoir les parents. Mais je pense qu'il y a plein de parents qui nous écoutent, et je pense que c'est à vous. Attendez pas que vos enfants ils vous éduquent sur. Parce que souvent on dit c'est la génération qui arrive qui va nous sauver.
Non, c'est trop facile.
En fait, il faut y aller maintenant et tous.
Et tous.
Parce qu'en fait, on va pas y arriver. Et quand j'entends.
Je veux quand même dire, tu parlais avant de 2070.
On est beaucoup à pouvoir le voir.
On risque d'être nombreux.
Pas moi. Enfin, pas moi, mais.
On sait pas trop, quoi, mais je veux dire.
Ça fait 46 ans, hein. J'en ai 47.
Ouais. T'attendras la centaine.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais, enfin, je veux dire, c'est demain, quoi, en fait.
Oui, on parle pas de dans 200 ans.
Et en fait, ce qui est terrible, c'est-à-dire que les gens. Pas de grands ensembles. Mais une grosse partie de la population, en fait, c'est-à-dire qu'on va leur agiter des chiffons rouges, totalement faux, totalement, des arguments totalement fallacieux. Hein, je peux vous prendre les exemples, hein, de ceux qui ont emmené les gens aux urnes, là, les migrants, le machin. En fait, factuellement, on sait que tout ça, c'est du bobard.
Bien sûr.
Mais ça marche. Et là, quand on a des choses qui reposent sur de la science, c'est-à-dire quand même sur des démonstrations, sur des. Personne n'y croit. Non, mais je veux dire, oui, là,
que c'est l'irrationnel de l'humain.
C'est exactement ça. C'est l'irrationnel de l'humain. Et il y a vraiment quelque chose qui, là. Ça m'interroge énormément. Alors, c'est pas la première fois qu'on est sûrement dans ces cas de figure-là.
Non, mais c'est ça.
Où l'humain s'enfonce dans ses croyances.
Ouais. Mais c'est qu'il a peur, l'humain, il a tendance à s'enfoncer dans ses croyances.
C'est exactement ça.
Moi, je vous le dis, c'est pas réjouissant. Non. Mais sauf que même les scientifiques vous le diront, et ceux qui travaillent notamment sur le climat, il n'y a rien d'inéluctable. C'est-à-dire qu'au contraire, ça devrait être grisant. C'est-à-dire qu'on devrait se dire, on peut y arriver. C'est-à-dire que collectivement, c'est une belle idée de se dire, on peut collectivement, à l'échelle de l'humanité, y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même une idée magnifique de se dire, tiens, si on s'unissait tous pour notre propre survie, c'est quand même juste beau. Donc en fait, il faut arriver à voir ça comme quelque chose de positif. C'est un défi collectif, c'est un défi à relever collectivement, tous ensemble, par la coopération. Et là, quand je parle de coopération, parce que ça aussi, c'est important d'avoir ça en tête, c'est, par exemple, c'est pouvoir échanger ce qui pollue le moins, ce qui fait le moins de CO2, gratuitement. C'est-à-dire, à un moment donné, d'aller vers les pays qui sont en développement et de leur éviter de passer par la phase charbon, pétrole, machin et tout, et de sauter une ou deux étapes de façon que ça évite d'avoir une émission en plus de CO2. C'est aussi appliquer et c'est aussi répartir vers les plus pauvres des outils qui permettent de polluer moins. Et ça veut dire, par exemple, c'est très très bête, ça veut dire repenser comment on achète, repenser comment on produit, repenser comment on fait les circuits de bouffe, tout ça. Oui. Et en fait, c'est hyper exaltant. Si on regarde concrètement les choses, c'est pas triste.
J'ai envie de crier, mais ça, c'est un beau projet.
Mais oui, mais je veux dire.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est pas triste du tout. Non. C'est-à-dire que les réacs et tout, et la droite et les libéraux, ils vous disent c'est de l'écologie punitive, tout ça. Mais c'est pas vrai. C'est un moment, en fait, où on peut se réapproprier toutes et tous nos destins et on peut influer sur nos propres vies et sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants.
Et là, il s'agit.
C'est magnifique.
Et il s'agit de construire, en fait.
Et il s'agit de construire, pas de détruire.
Oui.
Donc c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir à un moment donné sortir des schémas, de se dire ça va être contraignant, oui, il va y avoir des contraintes, mais elles peuvent être surmontées. Et elles peuvent être surmontées parce que on peut construire autrement.
Oui, et puis voilà. Même là, sur les contraintes, enfin, je suis désolé, non, hein,
ce sont pas
mais quand on
énormes.
Sait par exemple que 50% de la population française ne part pas en vacances, mais en oui. fait, la contrainte de ne pas prendre l'avion, elle va concerner ceux qui le
non,
prennent.
Mais
en fait.
Y a un chiffre, non, non, mais il y a un chiffre très simple à retenir. 80% des émissions de CO2, c'est 10% les plus riches. Donc voilà, vous prenez simplement ça. Ça veut dire que ceux qui vont avoir le plus de contraintes, c'est ceux qui vous disent aujourd'hui ayez peur des immigrés, ayez peur de machin, ayez peur, ayez peur, ayez peur, ayez peur, et l'écologie punitive, machin et tout. En fait, c'est eux. Mais pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'ils veulent pas changer. Et en oui. fait, ils font partie de cette classe-là. Donc en fait, en réalité, il va falloir aussi se rappeler que dans l'écologie, il y a aussi de la lutte des classes. Parce qu'en fait, il y a aussi ça dedans. Mais au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les plus grands nombres qui se réunissent pour dire au plus petit nombre, en fait, maintenant, t'arrêtes.
Mais oui, mais voilà. Parce qu'en plus, on est les plus nombreux.
Et quoi, ça, hein, et ça devrait bien quoi. Se passer. Et écoutez, Rouquine. Je sais pas pourquoi.
Okay.
Mais non, mais parce que c'est dans une de leurs chansons où oui. ils disent, on est pourtant les plus nombreux. Oui. Mais ils ont raison. En fait, c'est un, voilà. Et ça vous paraît peut-être exalté quand je dis ça, mais c'est parce qu'en fait, il y a un moment donné, on ne combat pas le désespoir par autre chose que l'espoir.
C'est beau.
Voilà.
Ouais. T'aurais dû parler toi en premier, pas Mélenchon.
Bah, la prochaine fois, vous m'élirez. Et je vous promets que je vous ferai une dictature douce. Non, c'est pas vrai.
Mais
surtout, ne me donnez jamais de pouvoir.
À personne. On passe à la musique ?
Oui.
Allez.
Causerie au 102 sur radioclip.org. Tu viens d'écouter Mipon avec Seeing You. Voilà, c'est joli.
Ah, c'était, oui,
ouais, j'aime beaucoup
agréable.
Ce. Ouais,
moi aussi.
Donc voilà, oui, des infos.
Ouais, allez, t'as deux, trois infos.
Alors, première brève, c'est peut-être la dernière rencontre de Lyon Info Migration. Voilà, parce qu'au moment où plus que jamais il est nécessaire de s'informer, de se rassembler, d'avoir une parole politique pour protéger les personnes immigrées sur notre territoire, Lyon Info Migration s'apprête à clôturer son cycle de rencontres. Donc il vous invite à une soirée festive de fin et surtout l'ouverture de nouvelles perspectives. Mmh. Oui, parce que quand quelque chose meurt, il faut que quelque chose naisse. C'est toujours comme ça. Donc du coup, ça se passe le 2 juillet 2024 à l'Amicale du Futur de 19h à 21h. Après, il y a une soirée festive pour conclure en beauté. Voilà, donc on discute de 19h à 21h30 et après on fait la fiesta.
Et c'est quand ?
C'est mardi 2 juillet.
Ok, voilà. Très bien.
Et jeudi 4 juillet, il y a une discussion qui a été initiée qui s'appelle « Casser la montée du Parti National ». Quelle carte jouer ? Alors, c'est construction révolutionnaire versus union sacrée de la gauche radicale. C'est une discussion à la Lutine, jeudi 4 juillet à 18h. Et je vais vous dire... Alors, je vous invite à aller lire sur Rebellion le texte, oui, parce qu'il est long. Je vais pas tout lire. Et du coup, la Lutine, c'est perdu où c'était ?
C'est rue Montesquieu.
Ouais,
c'est, si je me trompe,
c'est
pas.
Rue Montesquieu, je crois.
91 rue Montesquieu.
C'est ça, 91 rue Montesquieu, la Lutine. Et c'est de 18h à 20h, voilà.
Ok,
deux réunions. Et sinon, si tu veux nous joindre, et tu veux joindre l'émission, c'est lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu@gmail.com. Envoie-nous des trucs gentils, en ce moment on en a besoin. si tu veux réécouter toutes les émissions, parce que tu t'es dit, tiens, mais ils ont deux fois dit dans l'émission, on en a déjà parlé, et c'est sur blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie. Tu trouveras les 525 émissions et plus, parce qu'il y a des émissions spéciales qui sont sur notre blog, et tu pourras donc tout réécouter, parce que c'est les vacances et que t'as rien d'autre à faire, et que c'est vachement bien la causerie. Et sinon, tu nous trouves sur les podcasts ou balado-diffusion, comme diraient nos amis québécois. Et il suffit d'aller sur n'importe quel agrégateur de podcast. Si tu tapes bien la causerie Canu, normalement, on est là, on est présent. En tout cas, on est présent sur Spotify, Deezer et Apple Music et YouTube Music. On a vérifié. Donc là, les quatre là, on sait qu'on y est. Sinon, on remercie les gens qui nous partagent à droite, à gauche. Et c'est super sympa parce que vraiment, ça fait plaisir parce que on fait cette émission, on essaie d'y mettre des tripes et on essaie de vous amener des trucs.
On n'est pas forcément la plus sympathique et amusante des émissions.
Et on est content de voir que malgré notre ton parfois dur ou parfois rigolo, où on essaye de faire un peu ce qu'on peut, ça vous plaît, vous partagez, ça nous fait plaisir, donc un grand merci. Et sinon, pour terminer, on a aussi une page sur Facebook, mais on n'y fait que de la promo, donc c'est pas la peine de venir nous parler sur Facebook, viens plutôt nous parler via le blog ou alors lacauseriecanu@gmail.com, voilà, et radiocanu.org pour retrouver toutes les émissions de Radio Canu.
Waouh, reprends ta respiration.
Voilà.
Et on va se quitter, on vous donne rendez-vous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Pour de nouvelles aventures.
Ah, oui, c'est vrai. Oh là là.
Avec un deuxième tour.
Un deuxième tour, c'est super. Rendez-vous.
Et on vous donne rendez-vous sûrement le 14 juillet aussi.
Ah oui, le 14 juillet, on sera là.
Sans doute pour une émission qui
un
sera
un petit peu spéciale.
Pas très normale.
Ouais, en tout cas. Sûrement très musical, mais.
Ou pas, on verra.
Thématique, en tout cas.
Exactement.
Et nous vous donnons rendez-vous. Donc, dimanche prochain, je l'ai dit, de 22h à 23h sur l'antenne de Radio Canu. On va se quitter évidemment encore en musique. Et je ne pouvais pas résister à vous passer un titre de Massilia Sound System. Alors, ils ont sorti un petit album avec des reprises pour leur anniversaire. Mais là, c'est un titre de l'album précédent qui s'appelait Sale Caractère. Et le titre, c'est Vive la solidarité. Un truc de fou, hein. On lâchera pas l'affaire, on continue d'y croire, ou en tout cas de penser que la solidarité est une des clés de la réussite de l'humanité. Oh là là, que d'ambition!
Solidarité, coopération et fin des frontières.
C'est ça. allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et aux autres. Ça pourrait être pas mal, non?
N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.
Oui.
Et surtout, ne croyez pas ça. Vous n'êtes pas seul.
C'est ça. Bon courage.
Des bisous.
Des bisous.
Et
ciao.
À la semaine prochaine.
Yes.
Une chanson jolie que tout le monde reprenait dans le refrain. Fen disait vive la solidarité.
Tout droit sorti les enceintes d'un furieux sound system qui jouait du bon reggae, qui jouait la musique qu'on aime. Elle a suivi sa course et soudain elle a disparu dans un virage à gauche là-bas au coin de la rue.
Dans les entrées des couloirs, dans les greniers et dans les cours, on voit les gens qui bouleguent tout au long de son parcours. Même les plus feignants dans leurs oreillers enfoncés se lèvent pour chanter vive la solidarité.
C'est une chanson faite à la maison qui dit que dans la vie il faut veiller sur ses amis. C'est une chanson qui dit sans façon interdit aux colons, vive la solidarité.
Se faufile partout, y'a vraiment rien qui ne l'arrête. Tu barricades ta porte, elle rentrera par la fenêtre. Elle passe par les toits, elle passe par les cheminées, et tout l'immeuble crie vive la solidarité.
Les impasses, les rues, les avenues, les boulevards sont bientôt remplis de fracas dansant sur le trottoir. On envoie des renforts pour lui bloquer le passage, mais sans aucun effort, la chanson force tous les barrages.
File par les égouts, les tunnels et les caniveaux, rentre dans les usines, dans les chantiers, dans tous les bureaux. Partout les employés arrêtent aussitôt de bosser pour se mettre à chanter vive la solidarité.
C'est une chanson faite à la maison qui dit que dans la vie il faut veiller sur ses amis. C'est une chanson qui dit sans façon interdit aux colons, vive la solidarité.
Dans les villes, les banlieues, les campagnes, elles se répandent. Tout le monde la fredonne des montagnes aux océans. Pour se donner du courage ou pour endormir les bébés, on entend fredonner vive la solidarité.
Elle est là dès le réveil, elle te suit même sous la douche, te rentre par les oreilles et puis te ressort par la bouche. Chanter partout en russe, en occitan ou en ourdou, c'est un classique à Pékin, à Rio, à Ouagadougou.
Numéro 1 dans les hit parades de la planète, n'allez pas croire que tout ça va lui monter à la tête. Pas d'inquiétude, elle ne sera jamais mal interprétée. Interdit aux colons, vive la solidarité.
C'est une chanson faite à la maison qui dit que dans la vie il faut veiller sur ses amis. C'est une chanson qui dit sans façon interdit aux colons, vive la solidarité.